Bonjour Angélique Villeneuve.
Bonjour.
Alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de votre dernier roman qui s'appelle Les Ciels Furieux et qui vient de paraître aux éditions Le Passage. Donc Angélique, je vais d'abord situer un petit peu le contexte. L'histoire se passe fin 19e, début 20e en Europe de l'Est, sans doute aux confins de la Russie, où des attaques d'une violence inouïe, qu'on appelle des pogroms, étaient perpétrées contre les populations juives. Alors un soir, dans le village où vivent Eni, la petite héroïne de 8 ans et toute sa famille, des hommes en furie vont pénétrer dans la maison comme dans tant d'autres à cette époque-là pour se livrer à des exactions atroces. Et par chance, la petite fille, avec sa sœur adorée de 12 ans, Zelda, parvient à s'enfuir. Commencent alors 24 heures en mode survie pour l'enfant, racontée de la bouche même de la fillette. Et là, c'est comme si, soudain, on marchait, comme si on pensait avec elle, par un froid glacial, dans des maisons dévastées, dans la forêt où hurle la possibilité des chiens effroyables, des chevaux au galop, des bandits, où se mêlent la réalité et l'imaginaire des nids. Et moi, je me demande comment, de votre côté, vous avez fait pour devenir cette petite fille, parce que c'est vraiment ce qu'on ressent.
Ben, c'est ce que j'essaye en fait de faire dans chacun de mes livres. Les Ciels Furieux, c'est mon 9e roman. Et ce que j'essaye de faire, voilà, c'est d'incarner mes héroïnes, qui sont toujours des femmes, ou cette fois une petite fille. C'est d'être à l'intérieur de son corps. Et donc d'écrire plus que l'histoire d'une personne, c'est l'histoire de son corps. Et il me semble aussi que dans mon travail, mon écriture, qui est vraiment la chose que j'essaye de travailler le plus, est une écriture très organique, très peu intellectuelle, très instinctive, qui raconte la respiration, qui raconte le ressenti, les couleurs, les odeurs, le toucher. Et donc, il m'a semblé que écrire le corps d'une enfant, ça avait quelque chose de légitime pour moi. En tout cas, je pouvais me risquer à faire ça. Parce que quand j'ai raconté tout ça à mon éditeur au début du travail d'écriture, il m'a dit « Bon, le sujet, c'est assez casse-gueule, et écrire à la place d'une enfant, c'est encore plus casse-gueule, mais bon, on y va. » Et je savais pas si j'allais réussir à écrire cette histoire, mais il me semblait qu'écrire le corps d'une enfant, j'allais y arriver. Voilà, donc et c'est comme ça que je me suis glissée à l'intérieur du corps de Eni. Donc vous disiez qu'on est à sa place, mais c'est pas un récit au je. Je ne dis pas je parce que je ne sais pas le faire. Je dis un elle qui est l'équivalent d'un je, et aussi je dis un on. C'est-à-dire que très rapidement dans le processus d'écriture. Il y a une alternance du elle, du eni, et puis du on, qui est utilisé à la place du elle ou même du je. Et je me suis pas mal interrogée, on m'a interrogée aussi sur la survenue de ce on. On dit que, mais c'est pas seulement on dit que, c'est vraiment on espère, on marche. Peut-être que je pourrais l'expliquer par l'espèce de stupeur dans laquelle se trouve Eni après que, comme vous l'avez dit, ce qu'elle appelle des brigands, elle ne sait pas de qui il s'agit, sont entrés chez elle et ont tout détruit. Et elle a vu des choses qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'est pas en mesure à 8 ans d'interpréter. Elle est dans ce qu'on dirait aujourd'hui, dans un langage moderne, en choc post-traumatique. Et donc, ce « on » est peut-être le symptôme de la dissociation dont elle est l'objet à ce moment-là. Mais j'ai voulu, dans ce décor extrêmement difficile, extrêmement violent, apporter aussi la force de l'enfance, la poétique de l'enfance, ce qu'elle va avoir comme outil pour survivre, qui sont sa petite force physique, qui sont son courage, mais aussi, et c'est ce que j'ai voulu travailler, ce qui me semble formidable dans cette histoire, c'est aussi son imagination, l'amour incroyable qu'elle a pour sa sœur Zelda, qu'elle a pour les bébés. parce que dans cette famille, comme souvent, ce sont les sœurs aînées qui s'occupent des petits. Et puis la mère de cette famille est assez particulière. C'est une femme qui est assise sur son siège et qui fait des bébés les uns après les autres. Et Eni a trouvé dans cette famille Sapochnik un rôle formidable pour elle, extrêmement gratifiant, qui est le rôle de seconde mère, puisqu'on vient de lui confier un bébé. Et ce qu'elle a vu ce jour-là est extrêmement difficile.
Mais vous savez, je rebondis sur ce que vous disiez sur l'amour inconditionnel qu'elle porte à sa famille, en particulier à sa sœur. Ce qui m'a frappée, c'est que pendant toute cette nuit d'errance assez effrayante pour cette petite, pour que sa famille reste présente, elle a attribué à chacun de ses doigts le nom d'un des membres de la famille. Et finalement, ils sont autour d'elle parce qu'elle leur parle. La famille lui tient compagnie.
J'ai cette idée de comment on fait pour... De toute façon, c'est ça qui m'intéressait, d'écrire comment on fait. Comment on fait pour ne pas être seule. Alors oui, elle... Juste avant que tout ça n'arrive, elle avait imaginé que chacun de ses doigts portait le nom d'une personne de sa famille, mais plus que portait le nom, incarnait le nom. Alors, ils sont assez nombreux. Hein. Il y a 6 enfants, il y a les parents, et puis il y a la grand-mère morte qui a droit aussi à avoir une place dans une main. Il reste un doigt qui n'a pas de nom. Et peut-être qu'on verra qu'il trouvera sa place finalement. Mais oui, elle entend perpétuellement les voix de son frère, de son père, de sa sœur, de sa grand-mère. Et elle est accompagnée de tous ces personnages. Elle est comme un troupeau. Elle est plus forte avec eux.
Elle avance à plusieurs, en fait. Elle marche à plusieurs. Oui, oui, oui. Mais vous voyez, je me suis fait la réflexion que, en fait, c'est le type même de littérature qui peut vous ramener en enfance, mais pas en enfance au sens simpliste du terme, au contraire, à l'extraordinaire complexité de l'imaginaire enfantin. Je dirais même à la puissance du cerveau enfantin qui peut faire ressurgir chez nous, lecteurs, chez chacun d'entre nous, le souvenir de cette force-là qu'on a pu avoir à éprouver dans son passé. En fait, on peut traverser les uns ou les autres un truc affreux, et dans la plupart des cas, on survit, et on ne sait même pas comment on a fait.
Oui, elle ne sait pas comment elle a fait. Et c'est ça qui est magnifique en même temps, c'est que pour elle, par exemple, elle n'a aucune conscience de sa judéité. C'est-à-dire le mot juif n'est pas du tout prononcé dans tout le texte. Hein, il apparaît seulement en 4e de couverture. Pour elle, ils sont, comme tout enfant, pense que sa famille est à l'image de toutes les autres familles, comme elle pense que c'est la normalité, la norme. Et donc, elle ne comprend absolument pas pourquoi ces gens, ces brigands, sont entrés dans la maison pour faire du mal, pour casser, pour blesser, pour attaquer, pour tuer. Elle ne comprend pas ça du tout. Et finalement, comme vous disiez, c'est sans doute... la force de l'enfance de fabriquer quelque chose autour de ça, comme un insecte qui, à partir d'un débris, fabriquerait quelque chose de un nid ou un oiseau, alors peut-être.
Là, en l'occurrence, c'est plutôt un oiseau.
C'est plutôt un oiseau, oui.
Il y a quelque chose qui m'a interpellée également, c'est que, par moments, en lisant, on est comme dans une geste médiévale ou un autre type d'épopée de tradition orale, avec ce rythme très particulier, quelque chose d'une transe, presque psalmodiée. Mm-hmm. Et parfois, sans transition, on passe à quelque chose de parfaitement descriptif, à un raisonnement vraiment enfantin, je dirais terre à terre, en fait, qui nous repose au réel.
Oui. Oui, bah, c'est ça peut-être l'enfance, c'est ce mélange de tout ça. Et je suis contente que vous ayez ressenti ça.
Vous savez, je l'ai lu 2 fois, votre livre, Angélique. Et curieusement, la première fois, j'étais un peu en mode action. J'étais sur le déroulé des événements, dans un rythme événementiel. Qu'est-ce qui allait se passer et comment elles allaient s'en sortir, etc. Et la deuxième fois, j'étais tellement devenue cette petite fille. Peut-être que le « on » m'a aidée. Parce que si ça avait été « je » ou « elle », ça aurait été distancé. Là, le « on », moi, je pouvais rentrer dedans. Et en fait, je vivais en elle. J'étais entraînée par le flot poétique de l'écriture au plus proche de ses sensations. Et c'était une toute autre expérience la deuxième fois.
Ouais. Je crois que quand on relit, de toute façon, c'est toujours une toute autre expérience. C'est bien si cette deuxième expérience a été visiblement agréable, c'est pas le mot, mais en tout cas intéressante et satisfaisante. Pour moi, Annie, elle habite à l'intérieur de moi et j'habite à l'intérieur d'elle. C'est comme ça me le fait souvent avec les personnages que je travaille, mais cette petite fille-là, je crois que je l'oublierai jamais.
Mais il va falloir que tellement, vous en sortiez parce
que tellement elle est plus forte que moi, tellement elle est plus haute que moi. Tellement j'espère que tout ce qui arrivera peut-être à ce livre de bon essaiera de lui rendre honneur, de lui rendre hommage.
Ouais. Ben, je vous remercie beaucoup, Angélique. On arrive au terme de notre entrevue et je suis ravie d'avoir pu en discuter avec elle parce que c'est un livre que j'ai absolument adoré. Donc, merci pour tout et merci pour ce bouquin. Bonne journée, Angélique.
Merci beaucoup. Au revoir, merci.